Joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, arrivent à faire rimer ces nouveaux avec comment ? C'est déjà en promo ? Jusqu'au 27 mai, profitez de jusqu'à 15% de réduction sur la nouvelle gamme de fenêtres PVC et d'un financement 20 fois sans frais. Une offre comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Offre de crédit affectée 20 fois sans frais, valable du 2 au 27 mai pour tout achat de 1500 à 15 000 euros. Après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Conditions sur lapaire.fr.
Il est 10h01. Le flash, Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour. Manifester contre la guerre à Gaza aux États-Unis, le mouvement prend de l'ampleur. À New York, 300 personnes ont été interpellées sur deux sites universitaires. Des étudiants parlent de violences policières. Campement démantelé également à Madison dans le Wisconsin, à Tucson en Arizona, à Dallas au Texas. À Los Angeles, un campement pro-palestinien lui a été attaqué par des contre-manifestants dans la nuit de mardi à mercredi. Et depuis, chacun est sur ses gardes, Loïc Piala.
La journée était plutôt tranquille, seul léger moment de tension quand des manifestants pro-israéliens ont perturbé une conférence de presse de professeurs de UCLA, solidaires des étudiants sur le campement. Mais rien de comparable aux affrontements de la nuit précédente. Tsai, étudiante dans le campement installé depuis jeudi, un keffieh lui couvrant les épaules, n'a pas été surprise que son groupe soit attaqué par ce qu'elle appelle des sionistes.
Depuis le début, on reçoit des menaces de mort et de violences sexuelles. Je pèse mes mots, mais il y a une forme de torture psychologique. Ils diffusent à fond des sons d'enfants qui pleurent pour nous empêcher de parler et de dormir.
Stella, elle, est venue voir dans la matinée si les tentes et les barricades étaient toujours là. Elle raconte que sur le chemin, une étudiante l'a traitée de nazie en voyant son étoile de David autour du cou. Mais même si elle souhaite que la vie reprenne son cours normal sur le campus, elle ne soutient pas ce qu'elle a vu à la télévision.
Ça m'écœure. La violence n'est justifiée vis-à-vis d'aucun groupe, que je les soutienne ou pas. C'est vraiment triste parce que ça donne une fausse représentation des Juifs.
Les cours ont été annulés hier et les examens reportés par sécurité. La direction de UCLA a par ailleurs annoncé son intention de démanteler le campement rapidement. En début de soirée, les étudiants se préparaient à une intervention de la police. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et à Paris, il y aura un débat interne dans une heure autour de la mobilisation pro-Gaza de ces derniers jours. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, en appelle ce matin au président d'université. Ils doivent veiller au maintien de l'ordre. Ce matin, la situation est revenue à la normale à Orly et Roissy. Les orages d'hier soir ont obligé pourtant des avions à des changements d'itinéraire. Une quarantaine de vols à destination de Paris ont été déroutés. La faute à des infiltrations d'eau dans les installations. Les avions ont donc atterri à Nantes, Lyon, Bruxelles ou encore Liège en Belgique. Exceptionnellement, le couvre-feu d'Orly à minuit a même été repoussé pour permettre à d'autres avions d'atterrir beaucoup plus tard. Enfin, dans l'Aisne, une femme de 57 ans est morte la nuit dernière à Courmelles dans une coulée de boue, 1,50 m dans la maison. Son conjoint est blessé. Ce matin, toutes les vigilances orange sont levées. Côté sport, y a un rendez-vous manqué. Le PSG chez les Allemands de Dortmund. Ah ouais, défaite 1-0. Luis Enrique promet, on va aller la chercher cette finale à Paris, on sera plus fort. Peut-il dire autre chose finalement ? Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour le match retour au Parc des Princes. L'OM joue ce soir de son côté au stade Vélodrome, sa place en finale de la Ligue Europa, la mini-coupe d'Europe. Match contre l'Atalanta Bergame. Il y a un autre PSG au pied du mur, les handballeurs parisiens qui disputent les quarts de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Ils ont été battus largement à l'aller. Les Montpellierains, eux, ont l'avantage sur les Allemands de Kiel qu'ils affrontent cet après-midi en Euroleague de basket. Là, c'est compliqué. C'est pas simple en ce moment. C'est compliqué pour Monaco en quart de finale. Les Monégasques ont perdu encore hier contre les Turcs de Fenerbahçe, 89 à 78. L'enjeu est clair, gagner demain ou sinon, c'est passage à la trappe. Dans les échos des Jeux, après le persona non grata russe, la Tunisie est reprise en main. L'Agence mondiale antidopage a été très claire. Elle accuse le pays de ne pas être en conformité par rapport au code mondial antidopage et annonce des sanctions à effet immédiat. La Tunisie ne devra donc plus accueillir de championnats régionaux, continentaux, mondiaux. Pire, le drapeau tunisien ne sera pas autorisé à être levé aux Rouge, en fait, Tunis avait 4 mois pour adopter des modifications pour se conformer aux demandes de l'AMA. Mais début avril, rien n'a été fait. Voilà où on en est aujourd'hui. Le ministère de la Jeunesse et des Sports tunisiens dit qu'il va se mettre en conformité, mais la Tunisie n'est pas le seul pays épinglé. Il y a aussi le Comité National Olympique de l'Angola, la Fédération Internationale de Fitness et de Bodybuilding et, allez, l'Agence russe antidopage. Bon, bah là, ça change pas trop. 10h05 sur Inter.
France Inter, Nicolas Toufflet.
Nous enregistrons le jeu des 1000 euros aujourd'hui à Fère en Tardenois dans l'Aisne à 17h puis à 18h30. Demain à Auville dans l'Eure et samedi à Bernières-sur-Mer dans le Calvados.
Le jeu des 1000 euros, tous les jours à 12h45 sur Inter.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Krao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir 3 époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Et c'est Ali Rebeillé, c'est grand bien en face. Bonjour.
Bonjour, Ali. Ma chère Laetitia. Alors hier, on n'a pas pu faire notre coup de projecteur sur votre bulle de BD, votre chronique
excellente
sur la BD, sur la bande dessinée. donc dans le 5-7. Quel était le programme de bulle de BD hier?
J'entame un travail sur la mémoire avec Retour à Lemberg. Tiré du bouquin de Philippe Sand, signé donc Sand, Camus et Picot. Travaille sur la mémoire, sur ses grands-parents qui étaient juifs ukrainiens, mais aussi travaille sur la mémoire, les bourreaux qui ont été jugés à Nuremberg et aussi sur le droit international, comment on a expliqué crimes contre l'humanité et génocide. Fabuleuse bande dessinée chez Delcourt.
Rappelez le titre.
Retour à Lemberg.
Bulle de BD, c'est à podcaster sur l'appli Radio France. À tout à l'heure, à 11h. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face. Et ce matin, comment réussir sa reconversion professionnelle? Comme le dit l'une de nos invitées ce matin, il est peut-être temps pour vous de semer de nouvelles graines sur un terreau plus que jamais fertile en opportunités. Selon une enquête consacrée à la reconversion professionnelle, l'écrasante majorité des Français a déjà songé à se reconvertir, mais 55% de celles et ceux qui ont eu cette idée n'osent pas franchir le pas. Ce matin, nous allons vous aider à faire le point, à préparer le terrain, à bâtir votre projet, à trouver l'énergie et l'envie de franchir ce cap. Et puis, nous partagerons des conseils pour se faire aider juridiquement, économiquement, matériellement. Quel est le rôle du conjoint et de la famille dans cette reconversion? Nous évoquerons également les écueils et les erreurs qui peuvent entamer ce type de projet. Nos experts sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et recueillir vos témoignages. N'hésitez pas à partager vos bonnes et vos mauvaises expériences au standard et sur WhatsApp au 01 45 24 7000 en laissant message et note vocale sur l'appli France Inter, sans oublier la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebeilly, Grand Bien vous fasse.
Je veux devenir agricultrice?
Ben oui, j'ai réussi mes entretiens et ils m'ont acceptée dans un centre de formation agricole.
Tu m'en auras toujours fait voir, toi. Mais alors là, ça dépasse tout.
Maman... C'est pas des délires.
Mais enfin, agricultrice. Qui a pu te fourrer une idée pareille dans le crâne?
Personne, maman, j'y pense depuis toujours.
Mais tu ne m'en as jamais parlé à moi. Tu te vois élever des cochons, conduire un tracteur? Tu vas avoir 30 ans, ma pauvre fille. Alors tes rêves de fermière, tu les ranges et tu reviens sur terre.
Bah justement, maman, je vais avoir 30 ans, il serait temps que je fasse enfin ce que j'ai envie de faire.
Moi, je croyais que c'était bien pour toi des études d'informatique. Tu es devenue formatrice pour Internet. C'est pas rien, quand même. Tu voyages beaucoup. Tu vois plein de gens. T'as un très bel appartement. Tu gagnes très bien ta vie.
T'as rien compris, maman. J'en peux plus de tout ça. J'étouffe, j'ai besoin d'air, d'espace.
Une hirondelle a fait le printemps avec Mathilde Seignet. Bonjour, Laurence Bourgeois.
Bonjour Ali.
Vous êtes consultante en ressources humaines, coach certifié et l'autrice d'un livre indispensable chez First, Se reconvertir pour les nuls, sous-titré Trouver sa voie professionnelle. Bonjour Isabelle Olry-Louis.
Bonjour Ali.
Vous êtes professeure en psychologie de l'orientation à l'Université Paris-Nanterre et vous avez coécrit chez L'Harmattan l'orientation tout au long de la vie. Bonjour Valérie Bohain.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste. Il y a 3 ans, vous avez créé le podcast Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Que vous inspire ce témoignage, pardon, cet extrait de Une hirondelle a fait le printemps, où le personnage de Mathilde Seigner étouffe. Elle a besoin de changer d'air. C'est ce qui vous est arrivé à un moment donné de votre vie, vous, Valérie Bohain?
Ouais, moi c'est ce qui m'est arrivé, mais moi j'ai pas écouté cette petite voix, hein. J'étais bien dans ma zone de confort inconfortable, et j'ai été jusqu'au burn-out, donc voilà, j'ai switché, mais il m'a fallu en passer par là.
Vous étiez parti pour changer de métier, et puis finalement non.
Alors c'est vrai que ce que le témoignage de, enfin l'extrait, il dit bien que ça passe souvent par un ras-le-bol, un moment où voilà, on se retrouve plus, on asphyxie et finalement, moi j'ai voulu tout envoyer valser avec ce burn-out. Je me suis dit je vais être brocanteuse, donc je me voyais déjà. Donc j'ai commencé à amasser tout un tas d'objets et puis en fait c'était pas du tout pour moi.
L'ennui, le ras-le-bol, c'est un puissant ressort du changement, Laurence Bourgeois.
Oui, c'est un ressort du changement, mais attention à ne pas forcément atteindre ce point de too much, qui est finalement un point de non-retour, où on risquerait, comme le dit Valérie, de prendre des décisions radicales et de risquer peut-être parfois de tout changer et de faire d'une reconversion finalement la solution à tous les maux du quotidien, à la fois professionnel et personnel.
Isabelle Olry-Louis.
Oui, la première orientation, c'est souvent une orientation qui était un peu décidée aussi autour de soi. On a subi de douces pressions et on n'a pas toujours les moyens de se connaître parfaitement pour faire ses premiers choix. Donc, il n'est pas rare qu'au bout d'un certain nombre d'années de vie professionnelle, on réfléchisse, on se projette et on s'imagine potentiellement autrement. Il y a une incertitude de soi, du soi professionnel. Il y a des soi possibles et il y a des tentations multiples.
Laurence Bourgeois, première étape pour changer de vie professionnelle, c'est de faire le point en profondeur et tout d'abord interroger cette petite lueur de joie au fond des yeux quand on songe à changer de vie professionnelle. Oui. Et se demander est-ce que c'est un feu de paille ou un feu ardent, lueur de joie qui brille au fond de nos yeux quand on pense à ce changement de métier, ce changement de vie.
Oui, tout à fait. Une reconversion procède, et heureusement, j'aurais envie de dire, du désir d'aller vers, de passer d'un point A connu à un point B inconnu. Et heureusement qu'on a le désir qui peut nous y mener avec cette phase préalable qui est avant tout une phase de questionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on ne prend même plus le temps de se questionner, de comprendre nos vraies motivations et surtout demain, qu'est-ce que je veux retrouver en termes de valeur et ou d'activité.
Tout d'abord, se poser la question suivante, pourquoi changer? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Je ne suis plus en phase avec mes valeurs, je n'apprends plus rien, je m'ennuie, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du métier, je suis débordé, je n'y arrive plus, je me suis lancé dans ce métier, mais je me rends compte que ce n'était pas fait pour moi, je ne supporte plus la hiérarchie d'avoir un chef, je ne suis pas assez bien payé, c'est une bonne raison également. Ma vie professionnelle empiète trop sur ma vie privée, je ne trouve plus de sens à mon travail, je ne m'entends plus avec mes collègues, avec mon chef. Voilà les questions qu'il faut peut-être se poser en préalable d'un changement de voie professionnelle.
Exactement, Ali, vous dites « je ne », mais finalement, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que la reconversion n'est pas finalement vue comme une fuite plutôt que comme une envie d'aller vers? Et c'est ce sur quoi on doit absolument s'interroger et creuser nos motivations profondes pour pas que ce soit vécu comme un échec.
Valérie Bourin.
C'est Jung qui disait « on passe notre vie à escalader une échelle et l'autre à réaliser que nous l'avions posée contre le mauvais mur ». C'est vrai que moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé. Tout à coup, il y avait ce conflit de valeurs, cette perte de sens qui a fait que j'ai eu besoin d'interroger ma pratique, que j'ai voulu la balayer pour finalement y revenir et ne faire que la réorienter. Mais ce que ça veut dire aussi, et je pense qu'on est nombreux dans mon cas, c'est que quand on interroge son travail, qu'on le questionne, le questionner, ça ne veut pas forcément dire changer radicalement, et ça veut peut-être juste dire réorienter sa pratique, trouver un nouvel équilibre, changer d'entreprise ou de poste, ou voilà. Et je voulais aussi juste rebondir sur le titre de l'émission qui s'appelle « Comment réussir sa reconversion ?» Quand on est dans ce type de projet, qu'on démarre, hein, c'est toute cette phase de questionnement et tout, on se met énormément de pression. Ça crée beaucoup de peur, de doute. Voilà, on a l'impression d'avoir sorti toutes les fringues de son placard et puis de c'est le bazar dans sa tête, dans sa voilà. Et de pas trop se mettre la pression, quoi. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire réussir pour soi? Je pense qu'il y a une notion très personnelle à apporter, qui est pas forcément celle qu'on voit ou sur les réseaux sociaux ou sur chez d'autres gens. Et donc voilà, de nuancer ça.
Laurence Bourgeois.
Oui, ne pas se mettre la pression. Et puis, je rebondis là-dessus, c'est tester, tout simplement. Tester et se réorienter. Et dans la vie, on n'a pas, et heureusement, un seul métier, un seul emploi. et finalement, la vie n'est peut-être qu'une suite de reconversions. Donc ça peut aider à baisser la pression.
Isabelle Olry-Louis, cette phase de questionnement, d'introspection, c'est le socle sur lequel s'appuyer avant d'entamer ce changement, cette réorientation de vie professionnelle?
Oui, bien sûr. Je voudrais cependant revenir sur les chiffres que vous avez énoncés tout à l'heure. Il y a peut-être une catégorie de personnes oubliées ici. Ce sont toutes celles qui sont obligées de faire une reconversion parce que leurs conditions de travail sont devenues impossibles ou parce que simplement l'entreprise les a licenciées, leur secteur d'activité est en chute libre. Bref, donc il y a un certain nombre de personnes qui, notamment, vous avez dit, il y a environ un Français sur deux qui aspire à une reconversion, mais il faut savoir que ceux qui aspirent le plus à cette reconversion, ce ne sont pas les cadres nécessairement, ou les professions intermédiaires, ce sont les moins qualifiés. Les ouvriers, les employés non qualifiés ou peu qualifiés, ce sont eux qui sont les plus demandeurs et ce sont ceux qui sont les moins armés pour réussir leur reconversion. En moyenne, on observe qu'environ un tiers des personnes qui aspirent à la reconversion arrivent à la mener à terme, mais chez les moins qualifiés, c'est beaucoup moins que ça, c'est parfois 10%. Et donc, il y a un gros travail à faire qui prend de multiples directions, l'introspection, la réflexion, se donner du temps, s'essayer à travers toutes sortes d'expériences, mais aussi un accompagnement, des aides concrètes, notamment pour les plus démunis, pour affronter tout cela.
Alors attention au miroir aux alouettes, sommes-nous vraiment sûrs qu'un nouveau métier résoudra comme par magie nos difficultés au travail? Déplacer notre mal-être professionnel dans un environnement différent ne le fera pas forcément disparaître comme par enchantement. Laurence Bourgeois, avant de changer de métier, il y a peut-être d'autres solutions?
Oui, c'est de procéder par étapes ou par petits pas ou par réorientation de moins grande envergure. Par exemple, je ne trouve plus le sens dans ce que je fais. Qu'est-ce qui nous empêche demain de demander une nouvelle mission dans l'entreprise où on travaille? J'y arrive plus. Qu'est-ce qui nous empêche peut-être de revoir notre mode d'organisation du travail, de faire peut-être parfois moins, peut-être différemment, peut-être mieux, etc. Donc, c'est un peu comme dans un couple, hein, avant d'arriver à des mouvements à 360 degrés, on peut envisager des étapes intermédiaires, bien entendu.
Valérie Bois.
Ça me fait ce que vous disiez, Isabelle. Ça me fait réagir parce que hier soir, je discutais avec une chauffeuse de taxi. Je ne sais pas si on ne dit pas chauffeuse de taxi d'ailleurs, mais. et elle s'était reconvertie, c'était une reconversion. Et sa reconversion, elle est restée peut-être 8-10 ans dans le placard avant qu'elle la fasse sortir et qu'elle arrive à la réaliser. Et le déclic, ça a été, alors pas forcément de l'accompagnement, mais ça a été un déclic extérieur et son entourage, sa fille, qui l'a beaucoup soutenue. Alors, il y a eu un déclic extérieur qu'elle a perdu sa maman. Et puis sa fille, qui tout à coup l'a beaucoup soutenue, l'a encouragée. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un dans son entourage comme ça, qui vous soutient et qui vous aide à porter ce projet, c'est très important. En plus, probablement, de se faire accompagner et d'aller vers des gens aussi qui sont face à ce type de questionnement.
On reviendra tout à l'heure sur ce rôle essentiel des proches. Il est important, Laurence Bourgeois, d'interroger le sens que nous voulons mettre dans notre activité professionnelle, de bien identifier ses valeurs parmi les valeurs au travail, on peut retrouver la sécurité, le désir d'indépendance, gagner plus d'argent, avoir plus de créativité dans son métier, le confort, et puis le fait de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Donc c'est très important d'identifier ces valeurs.
Oui, d'identifier les valeurs, et quand on parle de sens, en fait, on parle de trois choses. On parle à la fois de direction, hein, le sens. Quand on voit un panneau, c'est le sens, aller vers. Donc, demain, quels sont mes objectifs? De quoi j'ai envie? Quelles sont mes ambitions? Le sens interroge aussi la signification, et c'est ce que vous dites quand vous parlez de valeurs. Qu'est-ce qui constitue ma colonne vertébrale et que j'ai envie ou pas de retrouver demain dans mon environnement professionnel? Et puis, le sens questionne enfin la sensation, c'est-à-dire cette notion de bien-être. Et oui, Isabelle, on a des reconversions forcées, mais la majorité, en tout cas de moi, ce que je peux voir en accompagnement, ce sont des reconversions souhaitées où le désir de bien-être au travail est quand même le moteur.
Isabelle Olry-Louis.
Oui, alors en complément des apports de Laurence sur le sens qui est donné au travail, il est évolutif, il bouge tout le temps et il va bouger fortement au cours de la reconversion. Hein. Donc ça demande à la personne d'établir souvent une continuité, au moins psychologique, au moins symbolique, entre l'activité d'avant, l'activité d'après. Ça lui demande aussi parfois d'essayer de réinvestir certaines compétences qu'elle avait pour renouer avec le métier d'après. Voilà, donc c'est un travail qui se fait dans la durée aussi.
Valérie Bohin, quand on change de métier, bien souvent on déménage, on change de ville. On a besoin d'un nouveau territoire, d'une terre vierge où personne ne vous connaît. Et ça, c'est fondamental, ça.
Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une étude qui a été menée par Hello Work, le média, qui est sorti en 2022, et qui nous dit qu'un tiers des gens qui déménagent se reconvertissent. Moi, dans Ciao Paris, je crois qu'il doit y avoir à peu près 70 épisodes, j'ai compté ce matin, il y en a presque 40 qui se sont reconvertis, alors soit en déménageant, soit après avoir déménagé. En fait, ce que j'ai pu constater, c'est qu'un changement n'arrive jamais seul. Hein, c'est un peu comme les trains, il peut en cacher un autre.
Et, il y a un effet domino.
Il y a totalement un effet domino et ça peut faire peur, mais c'est quelque chose dont il faut avoir conscience pour aussi pouvoir l'accueillir.
Laurence Bourgeois, il ne faut pas sous-estimer cet effet domino hein, du changement de voie professionnelle.
Oui, l'effet domino, c'est vraiment renforcer cette zone d'incertain. Quand on part d'un point A pour aller à un point B, la vraie question, c'est est-ce que c'est le bon moment pour le faire et est-ce qu'il faut ou pas tout changer d'un coup.
Isabelle Olry-Louis.
Oui, il y a une interpénétration des sphères de la vie, en réalité. Et un changement dans la vie professionnelle, ça va rejaillir nécessairement sur les autres sphères de vie, sur la famille, sur le conjoint, sur les enfants. Ce que tu disais tout à l'heure à propos de la manière dont les autres autour de soi accueillent cette décision, c'est essentiel. C'est quelque chose qui va jouer tout au long de la reconversion.
Et c'est l'un des critères aussi de la réussite, entre guillemets, de son changement de vie professionnelle.
Oui, mais c'est vrai que ce qu'il faut se dire aussi, pour relativiser cette notion de réussite, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule voie. Ouais. On a souvent l'impression, hein, un peu comme quand on doit déménager, c'est est-ce que je vais au bon endroit, est-ce que je vais choisir la bonne voie, le bon job, est-ce que c'est le bon moment. Bon.
Vous avez un peu tâtonné, hein.
Mais totalement, mais il faut tâtonner, hein. Moi, je me suis vue pendant plusieurs... je me suis vue en Bretagne, brocanteuse avec un café podcast, etc.
Et puis finalement, ce fut le sud-ouest.
Final, je suis à Toulouse et je fais un podcast. Voilà, j'ai juste réorienté ma pratique, mais voilà. Bon,
allez, dans un instant, nous verrons comment bien préparer le terrain à cette reconversion professionnelle. Vous souhaitez vous reconvertir dans la boulangerie, dans la réparation de vélos, mais connaissez-vous vraiment ces métiers? Parce que parfois, il y a un décalage entre le fantasme et les réalités. Et puis, nous verrons quels sont les métiers qui ont le vent en poupe. Ce sera juste après avoir écouté Charles Aznavour, Emmenez-moi, une chanson de 1967, 10h23 sur France Inter.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi.
me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la.
Charles Aznavour, emmenez-moi.
Je suis revenu pour faire berger, comme mon père.
Grand bien vous fasse.
Berger ? Si, tu vas pas t'amuser tous les jours, hein.
T'inquiète, j'ai fait des concerts à Medellin devant 80 000 narcotrafiquants. Alors c'est pas trois moutons qui vont m'emmerder.
Sur France Inter.
Bien souvent, changer de job est un choix que l'on fait parce que l'on est guidé par une passion. Ces quatre femmes ont troqué leurs habits de cadre pour des uniformes de chef. Celle qui les a réunies ici, c'est Alexandra, ex-cadre SUP, qui a fondé cette société spécialisée dans la livraison de repas en entreprise.
Et je dois avouer que le travail manuel, après 20 ans de travail mental, intellectuel, de management, c'est magique. Il y a une vieille rengaine qui tourne chez moi depuis toute petite. Mon père m'a toujours dit, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Ça tournait, ça tournait, ça tournait, puis un jour ça a pris sens. Je me suis dit, en effet, c'est bien d'avoir un super poste dans une super boîte, mais... Je ne suis pas chez moi, je ne peux pas entreprendre, je ne peux pas créer. Et ce que j'aime, c'est créer. J'ai eu l'occasion de mettre les doigts de pied dans une cuisine pour rendre service. Et ça a été une décharge électrique et je me suis dit là, ok, j'y vais.
Ce matin, comment réussir sa reconversion professionnelle? Alors, Laurence Bourgeois, je rappelle que vous publiez « Se reconvertir pour les nuls ». Cela peut paraître évident, mais il est essentiel peut-être de savoir où l'on met les pieds. Il peut exister un gouffre entre l'image rêvée d'un métier et sa réalité. C'est pas parce qu'on adore cuisiner que l'on sera forcément un bon restaurateur. Faire à manger pour une tablée, pour sa famille, pour ses amis, c'est formidable. Cuisiner dans le cadre de la restauration, c'est une toute autre histoire. Il est impératif hein, de faire un examen approfondi du métier qui nous fait rêver pour ne pas que cela se transforme en cauchemar. Il ne faut pas hésiter à tester son métier avant de se lancer, de faire des stages par exemple.
Oui, parce que la reconversion, heureusement, donne des ailes, mais une reconversion, ça se prépare, ça se teste, effectivement, ça se teste parce que pour se confronter à la réalité, pour conforter ou pas ses choix. Et ça se teste, par exemple, effectivement, en faisant des stages, en allant à la rencontre d'un nouvel environnement, d'une nouvelle région, d'un nouveau métier, pourquoi pas en se formant à un nouveau métier, en commençant en tout cas à se former, en activant un réseau, voilà. voilà, les opportunités sont extrêmement nombreuses.
Isabelle Olry-Louis, je rappelle que vous êtes professeure en psychologie de l'orientation à l'Université Paris-Nanterre.
Oui, il est important de pouvoir s'intégrer dans une nouvelle communauté professionnelle. Donc la constitution du réseau est essentielle et... Il y a un certain nombre de personnes qui aspirent à la reconversion qui vont souhaiter passer par une formation qualifiante pour avoir le sentiment pour elles-mêmes qu'elles sont légitimes à ce nouveau métier, à cette nouvelle activité, et pour que les partenaires de cette nouvelle activité les reconnaissent également. Donc la formation, c'est une aventure coûteuse aussi en temps, en investissement, hein, qui demande de faire de nouvelles acquisitions, et qui s'opère dans un environnement social qui fait entrer, hein, c'est une sorte de laboratoire au niveau de l'identité, hein, de la reconfiguration de l'identité. On va partager cette aventure avec d'autres.
Valérie Bois, sur ce décalage entre le rêve d'un métier et la réalité, l'exemple de votre exemple de brocanteuse, finalement, voilà, c'était un rêve, et puis finalement...
Oui, puis finalement, je me suis aperçue que pour moi, ça serait juste un hobby. J'adore chiner, je continue de le faire, mais simplement, j'en ferai jamais mon métier. Mais effectivement, c'est important d'aller se confronter à cette réalité-là quand on a des projets de changement de vie. Et c'est important, voilà, d'aller aussi. Ça permet aussi de muscler sa confiance en soi, parce que on est comme ça dans tout à coup un peu en errance. On avait des certitudes, on avait des routines du quotidien professionnel, personnel qui étaient bien calées. Là, on veut tout remettre en cause. Donc, il y a une perte de confiance en soi, des peurs, des doutes, des questions, c'est normal. Mais d'aller tester, d'aller confronter ce rêve à la réalité, ça permet, voilà, d'aller remuscler sa confiance en soi et...
Laurence Bourgeois.
Oui, et de prévoir également des plans B, c'est-à-dire des alternatives à envisager au cas où. C'est pas une situation où on voit forcément l'échec, mais plutôt les obstacles, et d'anticiper comment je peux demain les contourner.
Donc cette phase d'anticipation est très importante. Il faut forcément prévoir un plan B, donc, quand on souhaite se reconvertir professionnellement.
Moi, je pense qu'un plan B permet de construire un filet de sécurité qui permet justement d'être d'autant plus à l'aise dans le projet qu'on a à mener.
Alors, oui, pardon, Isabelle Olry-Louis.
Oui, si on veut revenir à la question posée par le titre de l'émission, les conditions de réussite d'une reconversion, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu. Il y a des facteurs individuels qui tiennent aux qualités propres de détermination, de passion, d'enthousiasme, de persévérance, de persistance, de curiosité, d'appétence pour la nouvelle chose. Il y a des facteurs contextuels qui tiennent au marché de l'emploi, au secteur choisi, aux aides financières disponibles, etc. Et puis, il y a un certain nombre de facteurs qui vont se jouer dans l'interaction entre les deux. Et notamment tout ce qui relève de la rencontre d'obstacles et la manière qu'a la personne d'y répondre. Comment est-ce qu'elle va s'ajuster? Comment est-ce qu'elle va réguler? Comment elle va pouvoir finalement s'adapter tout au long de la reconversion aux conditions qu'elle rencontre en cours de route? Alors, le plan B, il peut être prévu vu dès le départ, mais il peut aussi être improvisé en cours de route, hein, et puis suivi d'un plan C, etc. Il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas.
Laurence Bourgeois.
C'est très intéressant ce que nous dit Isabelle, parce qu'elle dit finalement, au-delà de la compétence, il y a toute une série de savoir-être. Elle parle de persévérance, de résilience, de capacité à rebondir. Et finalement, on pourrait presque se dire que aujourd'hui, ça pourrait prendre parfois le pas même sur la compétence, excepté bien sûr les métiers qui nécessitent absolument une formation professionnelle dédiée. Mais voilà, et la question, c'est de savoir si finalement ces compétences transverses, je peux pas les utiliser demain dans quel que soit finalement presque le métier où j'aille, c'est-à-dire persévérance, détermination. Oui, il en faut quand on veut se reconvertir.
Le mot-clé, c'est peut-être la flexibilité.
L'agilité, bien sûr, la flexibilité. Oui, et la résilience, oui.
Alors Isabelle Olry-Louis le dit bien, il est essentiel d'identifier ses ressources pour mobiliser ce nouveau projet professionnel. Alors les ressources d'un individu, c'est à la fois ses compétences, ses talents, ses appétences, ses supports familiaux, financiers. Il faut vraiment se poser la question de quelles ressources ai-je besoin pour atteindre ce nouvel objectif professionnel.
Oui. Quelles sont les ressources? La compétence en est une, effectivement. Ressources financières également. Où est-ce que demain je veux aller? Et puis surtout, pour moi, la ressource essentielle, c'est quand même la motivation. Pour moi, la performance passe avant tout par la motivation, beaucoup plus que par la compétence.
Comment on éprouve cette motivation, justement?
Ben, la motivation, c'est tout simplement ce qui relève du désir, de l'envie profonde d'aller vers.
Et qui dure dans le temps.
Et qui dure dans le temps. Alors, effectivement, c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément le feu de paille, et heureusement, ça ne l'est pas, bien que certaines reconversions puissent venir d'une passion, d'une idée, d'un feedback que quelqu'un nous donne, etc.
Isabelle Olrigui.
Oui, en même temps, ce qu'on sait, on le sait souvent, en tout cas dans les recherches qu'on mène, de la part de personnes qui ont réussi leur reconversion, qui sont allées à terme, parce que ce sont celles qui s'expriment le plus souvent. Mais il y en a beaucoup qui tentent quelque chose, qui n'arrivent pas à le mener à terme, et qui, pour autant, n'en sont pas nécessairement malheureuses. On a vu, par exemple, au moment du Covid, beaucoup de personnes quitter leur emploi d'origine sur un coup de tête, par envie de faire quelque chose de radicalement différent. Et puis revenir, 6 mois, 1 an plus tard, dans leur entreprise, et puis finalement, c'est pas forcément une catastrophe pour elles. Elles ont essayé quelque chose, elles ont grandi, elles se sont rendues compte peut-être des conditions de réalité, du décalage entre les rêves et la réalité. Et puis elles ont fait le choisi, elles ont choisi de revenir à quelque chose de moins risqué.
Valérie Bourin.
Oui, et puis c'est tout à fait juste. Et c'est vrai que de la même manière qu'il n'y a pas une bonne voie pour réussir, ou il n'y a pas non plus d'échec. En fait, on essaye, on teste. À partir du moment où on ne se met pas en danger financièrement, matériellement, où on garde cette sécurité matérielle qui nous permet de garder un toit sur notre tête, on essaye, on teste, on se réinvente au fur et à mesure de qui on est, qu'on avance.
Hélène nous pose la question suivante, très intéressante. Est-il trop tard pour changer de voie professionnelle à 50 ans? Y a-t-il un âge où on prend trop de risques, Laurence Bourgeois?
Il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Jamais. Et le pic aujourd'hui n'est plus à 40 ans, mais à 50 ans. Donc, c'est-à-dire que une fois que, voilà, on a vécu certaines choses au niveau professionnel, qu'on sait ce qu'on recherche, que les enfants sont grands, que la famille est établie, c'est à ce moment-là, aujourd'hui, dans les statistiques, que l'on pense à changer.
Isabelle Olrigui.
Statistiquement, cependant, on observe un petit déclin à partir de la cinquantaine, du nombre de reconversions professionnelles effectuées. Effectivement, les personnes au-delà d'un certain âge font un calcul sur ce qu'elles risquent de perdre et sur le nombre d'années qui les séparent de la retraite. Autre occasion de reconversion, de changer totalement de vie. Il y a des exemples très nombreux de personnes qui, au moment de leur retraite, vont pouvoir assouvir leur passion, vont pouvoir créer les choses qu'elles n'ont pas pu créer antérieurement.
Ces personnes font notamment un calcul financier. Il faut en venir à cette question financière. C'est l'un des nombreux freins qui nous empêchent de changer de voie professionnelle. C'est peut-être le premier motif pour justifier l'absence de changement, Laurence Bourgeois.
Tout à fait. Mais attention à ce que l'aspect financier ne soit pas non plus l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que ce soit le prétexte à tout. J'accompagne beaucoup de personnes dans le cadre de mobilité professionnelle et à la question « Avez-vous réfléchi à combien vous souhaitez gagner demain ?» Allez, plus de la moitié n'ont pas envisagé cet aspect-là. Donc c'est vraiment essentiel pourtant.
Comment trouver les financements pour sa formation professionnelle préalable à tout changement de métier? La formation professionnelle qui a connu de nombreuses réformes ces dernières années, difficile de s'y retrouver. Et puis c'est différent que l'on soit salarié ou demandeur d'emploi.
Oui, tout à fait. Si vous êtes salarié, vous avez donc aujourd'hui le CPF avec un nombre d'heures qui est mobilisable tout au long de votre vie professionnelle. Vous avez également le conseil en évolution professionnelle.
CPF, rappelez ce que c'est ?
Le dispositif de formation professionnelle. Qui octroie des crédits d'heures qu'on peut mobiliser tout au long de la vie professionnelle. Vous avez également le conseil en évolution professionnelle, si tant est que vous soyez salarié. Et puis, si vous êtes en demande d'emploi, la Pôle emploi offre des dispositifs extrêmement intéressants pour se reconvertir et monter un vrai projet professionnel.
Alors, si on est salarié, on peut trouver des informations très utiles sur moncompteformation.gouv.fr. Et puis, parmi les organismes habilités à proposer ce dispositif du conseil en évolution professionnelle, eh bien, on retrouve France Travail, l'APEC ou bien l'émission locale. Et puis, ne pas oublier qu'il s'agisse d'une entreprise publique, privée, d'une association ou de tout autre organisme, eh bien, votre employeur, eh bien, c'est un interlocuteur de choix quand on souhaite évoluer.
Oui, parce qu'on peut très bien avoir envie d'évoluer dans la même entreprise. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé une fois, passant d'un métier ressources humaines à un métier marketing. Et l'entreprise m'a octroyé et offert des formations. Et puis, les formations peuvent aussi... l'entreprise peut aussi avoir tout intérêt, parfois, à proposer des bilans de compétences aux collaborateurs pour rester dans l'entreprise ou pour envisager un développement personnel ou professionnel en dehors de l'entreprise.
Raphaël qui nous écrit, j'ai effectué il y a un an et demi des rendez-vous en conseil en évolution professionnelle qui m'ont aidé à trouver un nouveau projet professionnel à l'âge de 46 ans. Aujourd'hui, je suis devenu artiste dessinateur. J'ai pu démissionner de mon ancien poste qui me ne convenait plus. C'est un CDI. C'était un CDI, un très gros risque, mais aujourd'hui, je vais mieux et je suis en phase avec mes valeurs. Valérie Bohin.
Oui, c'est vrai que c'est très important de se faire accompagner. Ce CPF et ces autres dispositifs permettent ça. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant là dans cette phase où beaucoup de monde se questionne et beaucoup de monde enclenche ces changements de vie, pro notamment, c'est qu'il y a tout un tas de possibilités. Alors, il peut y avoir des accompagnements individuels, mais il y a aussi des accompagnements collectifs. Aujourd'hui, moi, je diffuse un épisode sur Ciao Paris, les bonnes questions à se poser quand on déménage. Et qu'on se reconvertit en même temps, parce que voilà, on parlait de cet effet domino tout à l'heure. Et c'est vrai que la coach que j'interview, elle a cet accompagnement collectif, et il y a une vraie force aussi à s'appuyer sur cet échange de groupe. Il y a une vraie énergie du groupe qui est super intéressante. Pour l'avoir vécu, c'est...
Et puis si je suis en CDI, je peux faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences qui a tout de même un coût, entre 1 000 et 5 000 euros. Et selon sa situation professionnelle, il existe des dispositifs de financement. C'est quoi exactement un bilan de compétences? Ça consiste en quoi?
Un bilan de compétences, on fait le point sur à la fois les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Donc tout un bilan, effectivement, sur les compétences que l'on a mobilisé en situation professionnelle, que l'on souhaite continuer à mobiliser, sur les appétences, sur ce qu'on veut faire, sur nos façons de fonctionner. Souvent, le bilan de compétences est complété par des tests psychométriques. Alors, on en prend ce qu'on veut en prendre. Mais ça peut être des outils tout à fait intéressants.
Ça permet
pour
de
mieux
pas
se connaître, pour mieux se connaître aussi.
Isabelle Olry-Louis.
Oui, ce qui est important aussi, tout simplement, c'est sans doute d'en parler beaucoup autour de soi. D'en parler à son accompagnateur, pouvoir tester auprès de lui aussi, pouvoir échanger avec le groupe, mais aussi avec les siens, avec des collègues qui sont souvent intéressés aussi, parce que ça résonne en eux. En parler avec des professionnels du métier convoité. Tester les idées qu'on a sur la chose et puis affiner sa connaissance de son propre projet.
Petit désaccord, Laurence Bourgeois, je vois d'autres
parler... Je dodeline parce qu'en parler, oui, mais attention à en parler quand et à qui. C'est-à-dire que souvent, il est parfois peut-être plus intéressant de monter un projet un peu seul pour ne pas se laisser, interpeller par des personnes qui pourraient projeter sur nous ou sur notre projet leurs craintes, leurs doutes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ma fille, tu veux être agricultrice alors que j'envisageais pour toi de travailler dans l'informatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la vie des autres peut venir tuer dans l'œuf un projet qui commencerait à naître. Et ça, attention.
Vous avez toutes les deux raisons. Valérie Bohin.
Oui, en effet, c'est vrai que c'est important de garder ce projet-là, d'y aller par étapes, quoi, parce que on peut être accompagné, mais on peut aussi être mal accompagné, donc faut choisir ses appuis, quoi.
Bon. Sauf que énoncer, même face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec soi, psychologiquement, c'est important de s'entendre dire, d'entendre dire la jeune femme de tout à l'heure, non maman, il est temps que tu ouvres les yeux, je n'en peux plus, j'ai envie de vivre autrement.
Bonjour Joachim Taïeb.
Bonjour Ali.
Programmateur dans cette émission. Alors, vous avez voulu mettre votre grain de sel dans notre conversation.
C'est ça, oui. Alors, tout plaquer, partir à la campagne et se lancer dans la permaculture, c'est un peu le cliché du jeune bobo parisien perdu auquel je ne m'identifie
pas du tout un jeune bobo parisien.
Pas du tout. Mais en réalité, ce cliché témoigne d'une vraie tendance de remise en question. Selon une étude relayée par France Info, 43% des actifs envisagent de quitter leur emploi pour un autre ayant plus de sens, et ce chiffre monte à 59% pour les moins de 35 ans. Et pour trouver du sens, le plus souvent, il faut pouvoir se convaincre qu'on apporte sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Alors, pour éviter de passer par la case remise en question des missions reconversion, ne faudrait-il pas mieux sensibiliser les étudiants, futurs actifs, aux enjeux du monde de demain, sociaux et environnementaux?
Alors, c'est une question que des étudiants comme vous, il y a peu, se sont déjà posées.
Exactement, Ali. On les a appelés les bifurqueurs. À la suite des grandes marches climat de 2019, beaucoup d'étudiants se mettent à dénoncer le décalage entre ce à quoi les grandes écoles les forment et la réalité du monde qui se profile. On se souvient des étudiants de la prestigieuse école AgroParisTech qui avaient critiqué leur formation et appelé alors à, je cite, « bifurquer, déserter » avant d'être coincés par les obligations financières. Et si la bifurque est un acte politique et courageux, les grandes écoles ont l'immense responsabilité de former les décideurs de demain et elles se doivent de les sensibiliser au mieux aux nouveaux enjeux de notre siècle. Mais plus que le rôle des grandes écoles face aux défis sociaux environnementaux, il est surtout important de construire un nouvel imaginaire. Aujourd'hui, dans les collèges et lycées s'opère une hiérarchie des matières et des filières. À aucun moment, on ne propose aux étudiants qui s'en sortent le mieux une autre voie que celle qu'on appelle par erreur la voie royale. Médecine, droit, prépa, hypocagne, commerce, ingé, où sont les filières professionnalisantes, les métiers manuels? Et comme le disait Mathieu Stelvio dans le Nouvel Obs en 2011 déjà, « Petit, je voulais être boulanger, mais j'étais bon en maths ». Moi aussi, je me suis souvent dit qu'un métier manuel, comme apiculteur ou menuisier par exemple, me plairait beaucoup. Mais à la sortie du lycée, j'ai fait médecine, comme 50% de mes potes.
Je vois bien comme apiculteur, Joachim.
Et d'ailleurs, j'ai l'exemple d'une de mes meilleures amies, Camille, qui sans trop se poser de questions est passée du lycée Charlemagne à Paris à l'école du Louvre, pas très loin. Il lui a fallu des années et du courage pour laisser de côté l'histoire de l'art qui ne l'épanouissait pas et se réorienter en cuisine, secteur de plus en plus valorisé. Et c'est une très bonne décision qu'elle a réussi à prendre, mais qui aurait été impensable à la sortie du bac. Évidemment, c'est tout à fait normal et sain de se poser des questions, se chercher. On a le droit de se tromper, et comme on le dit dans cette émission, il ne sera jamais trop tard pour bifurquer. Mais quand on sait le besoin d'agriculteurs, d'infirmiers, mécaniciens, boulangers, plombiers, le rôle de l'école et de l'éducation en général est capital dans la construction d'un nouvel imaginaire collectif. Un monde où être paysan serait aussi bien perçu qu'être ingénieur. Et dans ce monde, qui sait, j'aurais peut-être été menuisier.
Et vous auriez manqué à grand bien vous fasse.
Et j'ai une question pour vous, Isabelle Orly-Louis. Quel rôle pensez-vous que le système éducatif peut-il jouer dans la déconstruction de l'imaginaire de l'excellence?
Ah, un rôle sans doute très important, mais c'est difficile parce qu'on s'attache à des idées qui sont consistantes et voilà. Mais l'éducation, elle concerne aussi les comportements d'orientation, hein, apprendre à s'interroger sur ce qu'on a envie de faire régulièrement au cours de sa vie, apprendre à demander des aides, apprendre à contacter les bonnes personnes, apprendre. Ça fait aussi partie du cadre, je pense, qui peut faciliter l'avenir professionnel. Flexible des jeunes.
Valérie Bourin.
Moi, ça me fait réagir sur un autre registre, mais c'est vrai que je pense aussi notamment à l'injonction de cette quête de sens liée à tout ce qui se passe en ce moment, liée aux enjeux écologiques, économiques, enfin voilà. Et c'est vrai que ça peut aussi peser dans la balance. Et je trouve que c'est un voilà, il faut garder quand même une petite alerte sur cet aspect-là, quoi.
Laurence Bourgeois.
Oui, je pense que ce que nous dit Joachim, c'est que voilà, ça nécessite le changement et la reconversion parfois de casser des schémas sociaux, de casser des croyances et d'accepter à la fois de grandir et d'aller vers ce qu'on désire réellement, vers cette petite flamme dont on parlait en introduction, de la maintenir en veille, de l'allumer.
Merci beaucoup Joachim Taïeb. Merci. Pour ce grain de sel. Dans un instant, comment impliquer ses proches, son conjoint, sa famille, ses amis dans son changement de métier et de vie, des proches hein, qui peuvent être des freins à ce changement de vie. Alors ce sera juste après avoir écouté Fabiana Palladino, Stay With Me Through The Night. All of my Hoping to see you. Oh. Fabiana Palladino interprétait Stay With Me Through the Night.
Mais vous l'imaginez, le pizzaïolo breton qui n'a jamais écrit une seule ligne et qui pond un bouquin de cette envergure.
Grand bien vous fasse.
Non, puis c'est tellement suffisant de dire des trucs pareils. Je peux vous en citer plein, moi, des auteurs qui ont eu d'autres métiers avant de vivre de leur plume.
Sur France Inter.
Et ce matin, comment réussir sa reconversion professionnelle? Tiens, écoutons le personnage interprété par Camille Cotin, mère de famille de 5 enfants, dont Tony en famille.
Les enfants, vous m'accordez 2 minutes? J'ai quelque chose à vous dire.
Je me suis inscrite à l'université.
Vraiment?
Oui, vraiment.
Et pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt?
Parce que j'étais pas encore inscrite. Je préparais mon dossier, puis j'avais encore quelques doutes. Surtout, c'est une décision que j'avais besoin de prendre avec moi-même. Bah, ça va pas changer grand-chose. C'est comme si je partais travailler.
Mais tu travailles pas?
Bah si, je travaille, Mathilde. Et justement, j'ai besoin de changer.
Tu vas faire quoi?
J'aimerais me diriger vers l'éducation, l'enseignement. Tu penses quoi, Olivia, toi, de tout ça? Bon, bah moi qui pensais que vous seriez fière de votre mère.
Mais genre, t'es vieille.
Merci Marcus, j'ai 42 ans.
Extrait de Tony en famille en 2023. On ne change pas de vie professionnelle seul. Comment impliquer ses proches? Comment obtenir leur soutien? C'est essentiel pour sa confiance en soi. Ça donne des ailes pour mener à bien son nouveau projet professionnel. Laurence Bourgeois, autrice de Se reconvertir pour les nuls.
Oui, tout à fait. Un changement a forcément de facto un impact sur l'entourage. Ce qu'il faut prendre en compte, dans la mesure où c'est effectivement un phénomène systémique, c'est aussi toute l'écologie de notre entourage proche. Parce que là, on le voit, hein, le changement, ça casse l'image, ça casse les schémas établis, ça interroge, ça brouille les cartes, ça déstabilise l'environnement proche.
Valérie Bohin, oui, journaliste et autrice du podcast Ciao Paris.
Oui, et puis c'est vrai que quand on bouge soi, qu'on se réinvente, ça fait bouger aussi les autres. Et tout à coup, bah, ça change les places, ça remet en perspective les projets aussi des autres. Donc ça peut générer parfois des réactions assez violentes, comme chez la maman de Mathilde Seigné au tout début de l'émission.
Elle, ou là, ça avec lui permet le personnage de Camille Cotin.
Voilà, là, ça leur permet d'affirmer, mais ce que ça dit bien aussi, le témoignage de Camille Cotin, c'est que c'est d'abord un projet personnel. Et chez moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que chez tous les personnes qui changent de vie, au départ, il y a un élément qui fait rupture, alors que ce soit un élément positif, comme une rencontre amoureuse ou un enfant, ou un mariage, ou comme pour moi, un élément plus négatif qui était le burn-out. C'est vrai qu'il faut revenir sur cet élément-là et garder en tête, parce qu'on pourrait aussi être tenté de se laisser décourager. Mmh. Et je trouve qu'il y a aussi une question à ce moment-là qu'on peut se poser. Et dans ces moments où on pourrait hésiter, c'est quelles seraient les conséquences si j'avais rien changé. Et ça, c'est Nadège Gomila, que moi j'ai interviewé là dans l'épisode d'aujourd'hui de Ciao Paris, qui m'a posé cette question, et je trouve super intéressant.
Question vertigineuse, hein.
Mais ouais, mais quelles seraient les conséquences personnelles, émotionnelles, matérielles, si je reste dans cette zone de confort inconfortable et que je ne deviens pas acteur, en fait.
Je cite la philosophe Claire Marin, qu'on aime beaucoup dans cette émission et qui a publié Les Débuts, et qui dit dans Sciences Humaines en 2023, ces recommencements volontaires sont toujours risqués, c'est ce que nous recherchons, nous avons parfois besoin de nous mettre en danger, ne serait-ce qu'un peu pour savoir ce dont nous sommes capables lorsque nous perdons quelques repères. Beaucoup de témoignages ce matin. Ben qui nous écrit: j'ai démissionné de l'éducation nationale, je suis désormais brasseur pour suivre ma femme qui a fait une reconversion professionnelle. Nous avons déménagé dans les Côtes d'Armor, acheté une maison à rénover, les enfants ont suivi, et nous avons rangé le dossier de notre ancienne vie, le point de départ, le burn-out et la reconversion de ma femme. Une reconversion avec de grandes conséquences. Pascal qui nous écrit: je viens de découvrir votre sujet du jour, et cette année, c'est une année de grands changements avec mon épouse et mes enfants. Nous déménageons avec près plus de 20 ans dans la même maison, et nous avons changer professionnellement. Je crée mon entreprise de podcast. Cette période est très stimulante. Ça fait parfois peur, mais c'est une belle aventure que nous allons vivre en famille. Valérie Bohin.
Oui, c'est une très belle aventure et parfois très inconfortable aussi. Hein, c'est un peu, moi, souvent ce que je dis, c'est les montagnes russes émotionnelles, hein, ces changements de vie. Donc. Mais c'est important. Alors, pour moi, il y a deux choses. D'abord, de se retourner régulièrement pour regarder le chemin parcouru. Parce qu'on peut perdre de vue aussi de cet élément qui a fait rupture au point où on en est aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai parcouru? Qu'est-ce que j'ai gagné? Parce que finalement, on va vers soi dans ces changements-là. Donc, à partir du moment où on met en place un changement positif, il y aura d'autres effets, d'autres changements positifs qui vont se mettre en route.
Laurence, bonjour.
Oui, et puis je pense qu'il faut accepter que ça tangue à un moment donné. C'est-à-dire que un changement, c'est aller d'un avant pour aller à un après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ça s'inscrive aussi dans la durée. Une erreur pourrait être de réorienter tout de suite le cap différemment. Alors que l'idée, c'est vraiment de tester dans la durée, jusqu'à ce que ça se restabilise, d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre.
Isabelle Olrigui.
Oui, dans les exemples entendus là, il y a des reconversions qui engagent les deux membres du couple. C'est pas toujours le cas. C'est plus compliqué quand l'un part avec son propre désir et que l'autre subit cette transformation-là. Et ça peut générer des bouleversements importants. Hein. C'est quand même difficile à vivre. Il y a l'aventure d'un côté, il y a la stagnation de l'autre et parfois les conséquences négatives. Alors après, il y a aussi de belles aventures à vivre en famille. Moi, j'ai par exemple des étudiantes âgées qui passent leur master en même temps que leurs enfants et qui vont fêter ça ensemble et qui partagent cette fierté, cette joie. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses.
Marie qui nous écrit, j'ai changé deux fois de métier. Une chose qui m'a énormément aidée, ce sont les 2 ans de chômage qui m'ont permis de monter un projet, de rencontrer des professionnels et de se former. Nous allons conclure cette émission. Pouvez-vous nous rappeler les fondamentaux pour un changement de vie professionnelle réussi, Laurence Bourgeois, qu'est-ce qui vous paraît vraiment essentiel?
4 étapes. Pour moi, la première, elle est fondamentale, c'est cette phase de questionnement. La seconde, c'est vraiment une phase plus où on va dans l'imagination, dans l'ambition, où on va balayer les différentes alternatives. Ensuite, on construit, donc c'est là qu'on parle des supports, des financements, du réseau, etc. Et puis derrière, je crois qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il faut savoir aussi vendre son projet, son nouveau projet, savoir raconter la belle histoire du pourquoi on a changé.
Isabelle Olrigui.
Se donner du temps. Se donner du temps pour expérimenter, se donner du temps pour parfois exercer les 2 activités parallèlement, ne pas quitter trop tôt, ne pas décider trop tôt, se mettre aussi en situation de devoir expliquer à d'autres et de voir comment réagissent les autres à ce qu'on fait et s'ajuster au fur et à mesure de tout cela.
Valérie Bohin.
Bah pour compléter, moi je dirais de revenir au corps en fait, parce qu'on est beaucoup dans la tête là. Hein. On est beaucoup avec ses peurs, ses doutes, ses questionnements. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? Moi je dirais si vous en avez la possibilité, prenez 5 minutes par jour dans cette période, juste 5 minutes. Asseyez-vous, écoutez votre souffle, respirez, revenez aux sensations, parce que finalement elle est là votre petite voix aussi, votre désir il est là, et ça il y a cette stabilité du souffle, du corps, cette permanence pour le coup qui fait du bien. Et puis bon, bah si la méditation vous embête, allez courir, hein,
exactement.
Et ça fait du bien aussi.
Merci beaucoup Valérie Bohin, votre podcast c'est Ciao Paris. Merci beaucoup Isabelle Olrigui d'être venue ce matin. Merci Laurence Bourgeois. Se reconvertir pour les nuls, c'est publié chez First. Sachez que France Inter lance aujourd'hui la série Et si on changeait de vie, tirée des émissions de Grand Bien vous fasse. Parmi les épisodes, comment donner un sens à sa vie, comment trouver sa voie professionnelle, comment trouver un territoire où je me sens bien, comment réussir son intégration à la campagne. C'est disponible sur l'appli Radio France et sur les plateformes comme Spotify. Et si on changeait de vie. Demain, tout autre sujet que planter dans son potager en ce moment.
De plus en plus jeune, le portable devient une addiction.
Pour les enfants,
comment dompter les écrans?
Hey, à Radio France, on a la solution. Les podcasts jeunesse.